Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Le moins que l'on puisse dire est que Jésus se fait incisif, pas de demi-mesure. Si l'on veut aimer le Christ, il y a un prix à payer et c'est le prix de la croix. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Pour bien comprendre la portée de cet évangile si péremptoire, si fort, pour en saisir le vrai sens et l'exigence toujours actuelle, il nous faut en comprendre le contexte. L'évangile que nous venons d'entendre a été écrit quelques années à peine après la Pentecôte. La nouvelle communauté des chrétiens s'est multipliée très vite, 3000 baptêmes un jour, 5000 le lendemain, on peut dire que ça allait vite. Et évidemment, aux yeux des Juifs fidèles à la loi de Moïse, fidèles à la tradition de leur père, c'était un scandale. C'est le scandale de la croix. C'est le scandale de cette religion nouvelle, infidèle à ce qui a été transmis depuis des millénaires. Alors, il n'est pas étonnant qu'il y ait cette incompréhension, ce refus de cette petite communauté chrétienne, et que lorsqu'un juif de tradition juive se convertit au christianisme, eh bien il est banni tout simplement, il ne fait plus partie de la communauté juive. C'est quelque chose pour eux de très fort. Et encore aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Un juif qui se convertit, eh bien en quelque sorte il est banni de son peuple. On voit ça aussi avec les convertis venus de l'islam. Ils peuvent faire une croix complète sur leur famille et parfois sur leurs biens, quand ce n'est pas sur leur vie, parce qu'une fatwa pèse sur leur tête. Ce sont donc des paroles très incarnées qui résonnent d'une manière très particulière dans l'oreille des premiers auditeurs et des premiers lecteurs de saint Matthieu. Le Christ avait affirmé qu'il ne voulait pas abolir la loi, mais ils ne l'ont pas entendu. Le Christ a parlé de la folie de la croix et saint Paul après lui, d'un amour qui guérit, d'un amour qui renouvelle en profondeur, saint Paul le dit dans la deuxième lecture aujourd'hui, mais ils ne l'ont pas entendu. Il ne faut pas faire de contresens, Jésus ne vient pas opposer arbitrairement, mais remettre dans un ordre juste. Il ne vient évidemment pas condamner les relations familiales. Elles ne sont pas mauvaises. Dieu en a même fait un commandement. Tu honoreras ton père et ta mère. Ce quatrième commandement n'est pas aboli par ce que nous venons d'entendre. Il doit être vu à l'aune de la charité. Quelques 20 siècles plus tard, cet évangile est encore très, très incarné. Il y a quelques années, un juif converti, Jean-Marie Élie Sedbon, juif fervent, racontait dans un livre de la Kippa à la Croix sa conversion du judaïsme au catholicisme. Et il écrivait ceci. J'adresse aussi ce livre à mes frères juifs qui m'ont mis au banc de la communauté juive quand ils ont su que je m'étais converti, sans chercher à comprendre comment j'avais pu franchir ce pas et comment cette transgression inimaginable pour le juif ultra-orthodoxe que j'étais, auquel on avait enseigné à détester Jésus. Ils ont pensé que j'étais en colère contre le Dieu des Juifs à cause des épreuves que j'avais traversées. Mais non. Cette parole si exigeante, elle résonne encore aujourd'hui. Pas forcément de la même façon. Pour un certain nombre de fidèles chrétiens baptisés aujourd'hui, ils n'ont pas reçu le baptême en opposition avec leur famille. Au mieux, l'indifférence, ou au pire, je ne sais. Mais cet évangile reste encore extrêmement actuel, parce que si ce n'est pas notre famille de sang qui s'oppose à notre vie chrétienne, ce sont toutes nos racines, non plus biologiques, mais humaines, naturelles, parfois psychologiques, toutes les racines que nous avons dans ce monde, nos pères et nos mères, que sont nos habitudes, la mode, l'esprit du monde, la manière de penser du monde, contraire à Jésus-Christ. On en fait l'expérience aujourd'hui tous les jours. Être chrétien dans certains milieux professionnels, c'est de l'héroïsme. J'avais croisé, quand j'étais en Afrique, beaucoup de policiers qui me disaient « Mes pères, mais si je ne rentre pas dans la corruption, je perds mon travail. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ?» Et tant d'autres comme cela. Alors oui, nous avons tous nos affections, nos racines dans ce monde qui ne veut pas de Dieu et avec lesquelles Jésus nous demande de trancher dans le vif. On le voit par exemple dans certaines familles où des parents qui ont de beaux projets professionnels pour leurs enfants, parfois très légitimes, très bons, très beaux, très honorables, et à qui Dieu demande de renoncer à ses projets parce que l'enfant veut rentrer dans une abbaye ou au séminaire ou dans une communauté religieuse. Oui, c'est crucifiant pour les parents. Qui aime son fils plus que Jésus n'est pas digne. Et là, c'est parfois très, très crucifiant pour les parents. Et parfois aussi, dans l'autre sens, pour les enfants. Un enfant qui veut rentrer au séminaire ou dans la vie religieuse et qui se heurte à l'incompréhension, au refus, au frein de ses parents. Et qui doit lui aussi sacrifier quelque chose de cette affection. Non pas le quatrième commandement. Il honorera toujours son père et sa mère, mais en faisant la volonté de Dieu. On le rencontre aussi, encore plus ordinairement si je puis dire, dans notre vie quotidienne, face à tout le poids des habitudes du monde. Les habitudes de la mode. Bon, il n'y a pas que la mode vestimentaire, il y a la mode vestimentaire, mais pas que. La mode de pensée. Tout le monde pense comme ça. On fait comme tout le monde. C'est une expression passée dans le langage tellement courant, mais tellement contraire, parfois, à l'Évangile. Parce que tout le monde n'est pas l'Évangile. Il y a aussi cette tendance aux habitudes de mondanité, la réussite purement humaine, l'argent, les plaisirs, pas forcément illégitimes, mais qui affadissent notre foi, nous éloignent de cet amour inconditionnel pour le Christ. J'avais peut-être déjà cité cette parole d'un haut dignitaire, un président d'une république soviétique socialiste dans les années 69-70, qui disait « Installer la population dans le confort, ils perdront la foi. La foi est soluble dans le confort. » Si on regarde de près, il avait bien raison, malheureusement. Alors Jésus nous invite à travailler, cultiver notre vertu de foi, précisément pour tout fonder dans notre vie sur lui et sur lui seul. Parce que c'est seulement en lui, par lui, avec lui, comme nous le disons dans la liturgie, à la fin de la prière eucharistique, c'est seulement en lui, par lui, avec lui, que notre vie trouve un véritable sens et peut s'affranchir précisément de toutes ces pesanteurs qui nous traînent, qui nous tirent vers le bas, qui paralysent notre capacité d'aimer, notre capacité de vivre pour Dieu. Un autre champ d'application qui s'ouvre à nous dans les semaines qui viennent. On rentre dans les vacances. Pour certains, bon, plus ou moins. Nous savons tous que les vacances, c'est très mauvais pour la vie chrétienne, n'est-ce pas ? Parce que le repos nécessaire et bon devient parfois, par un relâchement, synonyme de relâchement. Alors qu'en réalité, Dieu nous le donne, non pas simplement parce que les gouvernements ont décrété que du 1er juillet au 31 août, on était en vacances, mais parce que Dieu sait que nous avons besoin de ce temps de détente pour reposer notre vie, remettre en place notre vie. Et pour cela, pour remettre en place notre vie, remettre les éléments les plus essentiels de notre vie. Notre foi. Et ce temps est sans doute aucun. Une possibilité, une occasion que Dieu nous offre d'un vrai progrès spirituel. Beaucoup profitent des vacances pour faire une retraite spirituelle. C'est évidemment excellent. Beaucoup profitent des vacances pour prier davantage, pour un temps familial où on est là, non pas en petit cercle fermé, mais où on peut se donner davantage à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, dans un partage communautaire. La première cellule de l'Église, c'est la famille. Alors demandons au Seigneur de faire de ce temps et de toutes les occasions de notre vie un marchepied pour développer notre foi, en coupant généreusement, en immolant généreusement ce qui nous empêche de nous rapprocher de lui. Puisse ce temps de vacances qui s'ouvre être l'occasion d'un approfondissement de notre vie en Dieu, de notre vie avec Dieu et de notre vie pour Dieu.